Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Les casseurs n'auront pas le dernier mot, dit Édouard Philippe ce soir. Le Premier ministre annonce une nouvelle loi durcissant les sanctions contre les manifestations non déclarées et contre les casseurs, donc, qui pourraient être fichés comme les hooligans. Christophe Détinger, l'ancien boxeur professionnel qui a frappé des gendarmes mobiles samedi, s'est rendu, il est en garde à vue et tente de justifier son geste. L'un des gendarmes mobiles, justement pris pour cible, confirme, il avait envie d'en découdre avec les forces de l'ordre, il frappait au visage pour me mettre KO. Des gilets jaunes qui ont reçu aujourd'hui le soutien inattendu du gouvernement italien. Je n'ai jamais cherché à cacher, encore moins à couvrir ces faits horribles. Les mots du cardinal Barbarin à l'ouverture de son procès aujourd'hui pour non-dénonciation de crimes pédophiles. Et puis le foot, Lille-Sochaux, avant-dernier match des 32e de finale de la Coupe de France. C'est en ce moment, c'est sous vos yeux, Sébastien Bouet, et ce sont les Lillois qui mènent à la mi-temps.
Exactement, 1-0 pour le LOSC face à Sochaux. Ça vient de reprendre 2 minutes de jeu en seconde période.
Et on vous retrouvera plus longuement dans le courant de ce journal. Merci Sébastien Bouet en direct du stade Pierre Mauroy. Du côté de la météo, Elena Morna nous annonce un changement de temps avec l'arrivée de la pluie cette nuit par le nord. En montagne, on attend 10 à 20 cm de neige. Et puis le retour de votre rendez-vous éco tous les soirs à 22h20 avec Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Gary Shapiro, le président du CES de Las Vegas, le Consumer Electronic Show, le plus grand salon mondial de la high-tech qui commence demain.
Europe 1.
Et c'est donc la réponse du gouvernement aux violences de ce week-end et des week-ends précédents. Édouard Philippe a présenté ce soir un plan de bataille. Davantage de policiers mobilisés samedi prochain. 80 000 policiers et gendarmes dans toute la France, dont 5 000 à Paris. Et surtout une future loi pour sanctionner davantage les casseurs et ceux qui ne respectent pas les règles fixées pour toute manifestation.
Il faut préserver la liberté de manifester en France. Et il faut sanctionner ceux qui veulent enfreindre ce droit à manifester. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est favorable à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration, ceux qui participeraient à des manifestations qui ne sont pas déclarées, ceux qui arrivent aux manifestations cagoulées, à faire en sorte que la responsabilité civile des casseurs soit très sérieusement et très complètement engagée. On a connu une situation en France où dans des grandes manifestations publiques, on avait des débordements, et notamment dans les stades de foot.
Les hooligans.
On a pris des mesures à l'époque qui ont permis de faire en sorte que ceux dont on savait qu'ils venaient au stade exclusivement pour casser puissent être interdits de participation à ces manifestations.
Donc vous allez faire un fichier pour manifestants.
Ce dispositif, il a bien fonctionné. Je crois qu'il faut faire évoluer notre droit et compléter une disposition législative dans notre droit.
Le Premier ministre ce soir sur TF1 avec Gilles Boulot et la première réaction politique très critique d'Éric Coquerel, le député de la France Insoumise.
On est en train de passer un système d'état d'urgence permanent gravissime. Si on suit ce qui vient d'être décidé, quelqu'un qui organisera un rassemblement sur un rond-point même pacifique pourra non seulement être condamné, mais en plus pourra se voir interdire à l'avenir de toute manifestation. Enfin, c'est un durcissement considérable et je ne crois pas que ça soit de nature à calmer un mouvement qui puise sa colère dans la politique du gouvernement, mais par contre, c'est au niveau des libertés démocratiques, c'est un problème.
Le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, joint à l'instant par Adrien Beck. Autre réaction que l'on attendait après ces annonces du Premier ministre. Elles sont en première ligne dans ces manifestations. Les forces de l'ordre, Fabien Van Emmerich du syndicat de police Alliance, estime que les revendications ont été entendues.
On retient surtout deux choses ce soir, c'est-à-dire que le port de la cagoule devient un délit et non une contravention, ce qui nous permettra d'interpeller l'individu et de le mettre en garde à vue. Et ensuite, la création du fichier que l'on demande depuis quelques années déjà, c'est un fichier qui permettra d'identifier les individus afin d'interdire qu'ils viennent manifester. Si on avait fait ça depuis 8 semaines, aujourd'hui, les casseurs, on en aurait beaucoup moins dans la rue. Les fichiers, ça leur nous permet de les interdire de manifester et ça permet surtout que les vrais gilets jaunes puissent manifester, eux, de manière pacifique.
Le secrétaire général délégué du syndicat de police Alliance, joint ce soir par Alain Accot. Édouard Philippe qui a également précisé que 5600 personnes ont été placées en garde à vue et 1 000 000 de condamnations prononcées par la justice depuis le début de cette mobilisation des gilets jaunes. À propos de casseurs, ou plutôt de boxeurs en l'occurrence, Christophe Détinger, l'ancien boxeur qui s'en est pris aux gendarmes mobiles samedi à Paris, s'est rendu aujourd'hui. Il a été placé en garde à vue, mais juste avant de se rendre, il a pris soin d'enregistrer une vidéo dans laquelle il explique pourquoi, selon lui, samedi, il est sorti de ses gonds.
J'ai vu la police faire mal à des gens
Avec des flashballs, j'ai vu des gens blessés, j'ai vu des retraités se faire gazer. À force de se faire taper, ben oui, je me suis fait gazer le dernier jour. Oui, j'ai voulu avancer sur les CRS, je me suis fait gazer avec mon ami, ma femme. Et à un moment, la colère est montée en moi. Et oui, ben, j'ai mal réagi. Mais je me suis défendu. Peuple français, gilet jaune, je suis de tout cœur avec vous. Il faut continuer pacifiquement, mais continuer le combat, s'il vous plaît.
Voilà, extrait de cette vidéo postée par Christophe Détinger avant de se rendre aux autorités. Guillaume Bié a pu recueillir, quant à lui, le témoignage de l'un des gendarmes mobiles visé justement samedi par les coups de l'ancien boxeur. Pierre, c'est son nom, dénonce une violence gratuite et en appel à la justice.
Quand on le voit comme il est, c'était quelqu'un qui avait envie d'en découdre, avec les forces de l'ordre, avec moi notamment. Je ne sais pas pourquoi moi. Et nous, on était en train de reculer pour se repositionner. Et on voit bien que c'est lui qui avançait vers nous pour frapper. Et il me visait vraiment le visage pour me mettre au sol, mettre un KO.
Vous aviez déjà vécu ça ?
Non, jamais. J'ai déjà fait des maintiens de l'ordre, mais jamais avec une telle violence en si peu de temps.
Après coup, vous y repensez ? Qu'est-ce que vous vous dites un peu avec le recul maintenant ?
Que ça aurait pu être bien plus grave. Il suffit qu'on tombe au sol. Après, il nous jette, parce qu'on était au-dessus de la Seine, donc il nous jette dans la Seine. Avec l'équipement, impossible de nager, on coule automatiquement. C'était de la violence gratuite. Donc voilà, après, la justice fera son travail. Avec mon camarade, on a déposé plainte. Donc voilà.
Pierre, l'un des gendarmes visés par les coups de Christophe Détinger, il était au micro Europe 1 de Guillaume Bié. À Toulon, deux informations judiciaires ont été ouvertes pour faire la lumière sur les violences commises dans cette ville samedi dernier par trois hommes après une manifestation des Gilets jaunes, mais aussi sur leur interpellation par un policier qui a été filmé en train de les frapper. L'inspection générale de la police nationale a d'ailleurs elle aussi été saisie des faits. Et puis à Troyes, un gilet jaune accusé d'avoir jeté une pierre sur une policière samedi a été condamné aujourd'hui à 5 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Et puis c'est une prise de position qui ne passe pas inaperçue, celle du gouvernement italien sur cette crise des gilets jaunes. Gilets jaunes, ne faiblissez pas, c'est ce qu'écrit le vice-premier ministre Luigi Di Maio. Et il offre même l'aide de son mouvement anti-système 5 étoiles pour organiser des événements ou bien pour choisir des candidats. Quant à son homologue issu de l'extrême droite, Matteo Salvini, il dit soutenir les citoyens honnêtes qui protestent contre un président gouvernant contre son peuple. Pour le journaliste italien Alberto Toscano, qui était l'invité d'Europe 1 ce soir, ce soutien n'est pas totalement désintéressé.
Il y a beaucoup d'intérêt. On se pose des questions. On sous-estime l'état de confusion totale politique des Gilets jaunes, parce qu'il n'y a pas une ligne politique des Gilets jaunes. Il y a un intérêt mêlé à une certaine confusion des Italiens, des commentateurs italiens, vis-à-vis de la situation française.
Est-ce que la constitution de ces gilets jaunes, la manière dont ils se sont organisés, regroupés, ressemble, oui ou non, à ce qu'était à l'origine le mouvement 5 étoiles ?
Oui et non. Oui, dans le sens que c'est une réaction à la politique traditionnelle. Quelque part, les mouvements 5 étoiles et les gilets jaunes sont la réaction à l'échec d'une certaine classe politique traditionnelle, disons-le. Au même temps, la différence principale est que le mouvement 5 étoiles s'est structuré. Les gilets jaunes sont en état, situation magmatique, une effervescence difficile à identifier dans un programme politique et dans une force politique capable d'aller au pouvoir.
Le journaliste italien Alberto Toscano, qui était l'invité de Mathieu Béliard ce soir sur Europe 1.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h08 et c'est la suite de votre journal avec un cardinal devant la justice. Philippe Barbarin comparaît depuis ce matin devant le tribunal correctionnel de Lyon, accusé de ne pas avoir dénoncé des actes pédophiles. 5 autres personnes sont jugées avec lui, 5 anciens membres du diocèse de Lyon. Les victimes du père Prénat attendent beaucoup de ce procès, elles dont l'enfance a été volée. Jean-Luc Boujon, vous avez suivi cette première journée d'audience au cours de laquelle le cardinal Barbarin a longuement pris la parole aujourd'hui.
Oui, Monseigneur Barbarin a parlé plus de 2 heures cet après-midi, mais c'est vrai que le discours de l'archevêque, qui en temps normal adore manier le verbe, a été très minimaliste, très évasif. Il y a eu beaucoup de « je ne sais pas, j'aurais dû mieux faire, j'ai peut-être eu tort, je n'étais pas sûr », ce qui a donné l'impression, et c'était peut-être le but, d'un homme démuni, un homme qui par exemple est obligé de demander à Rome que faire du père Prénat quand une victime vient le voir dans son bureau et lui explique par le menu les attouchements subis lorsqu'il était enfant. alors que le simple bon sens aurait dû lui commander de mettre fin sur le champ en fonction du prêtre. Résultat, il lui faudra près d'un an pour l'écarter de sa paroisse et des enfants du catéchisme. Une défense qui a donc choqué François Devaux, victime et fondateur de l'association La Parole Libérée.
Il n'a pas l'air de savoir grand-chose et d'être compétent sur grand-chose. Ça interpelle quand même qu'on confère à un homme autant de discernement et d'aura. Cet homme-là est un directeur de conscience. C'est une figure emblématique de l'Église qui nous donne des caps dans notre société, qui interroge sur le mariage pour tous ou des vrais sujets de société. Et quand on voit cette absence de discernement alors qu'il est censé avoir quand même une hauteur de vue sur les choses et puis même un aspect théologique, enfin ça pose beaucoup de questions en fait. Comment tout ça fonctionne, à quoi ça sert, où est la conscience là-dedans? J'ai du mal à comprendre.
Voilà, l'impression des victimes, c'est celle d'un responsable qui minimise son rôle et son influence pour en quelque sorte se soustraire à ses responsabilités. Impression confirmée par cette phrase que le cardinal a répétée en boucle. J'ai peut-être commis des erreurs, mais je ne vois pas en quoi je suis coupable des fautes que l'on me reproche.
Le compte-rendu d'audience de Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. C'était il y a 4 ans, jour pour jour, la France, sous le choc, 12 morts à la rédaction de Charlie Hebdo. 4 ans plus tard, l'hebdomadaire satirique publie cette semaine un numéro spécial baptisé « Le retour des anti-lumières ». On y voit sur fond noir un évêque et un imam qui soufflent sur la flamme d'une bougie dont la lumière éclaire le dessin qui avait fait la une du numéro du 14 janvier 2015. Tout est pardonné. Une cérémonie a été organisée aujourd'hui à Paris devant les anciens locaux du journal. Riss, notamment le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, était présent.
C'est une cérémonie qui est émouvante parce qu'on revient sur les lieux, parce qu'on est 4 ans jour pour jour, presque au même instant là où ça s'est passé, et puis parce qu'on retrouve aussi les familles des victimes. On a parlé de ça justement, de rester en contact, voilà, et de se soutenir les uns les autres quand on en a besoin, quand il le faut. Voilà. Maintenant, c'est peut-être un peu plus facile, parce que dans les mois qui ont suivi, c'était trop difficile. Il fallait supporter tout ce qu'on a supporté, donc c'est par étapes que les choses se font. Mais c'est vrai que ça fait du bien maintenant de pouvoir discuter les uns avec les autres.
Riss, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, avec Aude Vernuccio. Le djihadiste français Mehdi Nemouche comparaît depuis aujourd'hui, accusé de la tuerie au musée juif de Bruxelles en 2014, qui avait fait 4 victimes. Il nie les faits. Selon son avocat, Mehdi Nemouche brûle de pouvoir dire sa vérité. Procès qui devrait durer jusqu'à fin février. L'acteur américain Kevin Spacey, inculpé d'agression sexuelle aujourd'hui, mais laissé libre sous caution. Il est accusé d'avoir abusé d'un garçon de 18 ans en 2016. Donald Trump s'adressera à la Nation demain à propos de la frontière avec le Mexique, dossier brûlant puisqu'il est à l'origine du blocage qui provoque le shutdown et qui paralyse l'administration américaine. Le président a prévu de se déplacer sur cette frontière jeudi. Les États-Unis, où la Cour suprême a validé aujourd'hui l'interdiction du foie gras en Californie. C'est la fin d'une longue bataille judiciaire entre défenseurs de ce mets de luxe et militants de la cause animale.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Un nouveau drame dans le monde du rugby. Un étudiant de 23 ans est mort hier à Dijon, décès consécutif à un choc lors d'un match amateur fin novembre. C'était lors d'un tournoi entre écoles d'ingénieurs. C'est le 4e décès en 8 mois en France sur un terrain de rugby. Et puis en foot, Lille-Sochaux, c'est en ce moment dernier match des 32e de finale, avant-dernier match des 32e de finale de la Coupe de France. Sébastien Boé et des Lillois qui continuent à dominer.
C'est bien ça, 59 minutes de jeu au stade Pierre-Mauroy et le LOSC, 2e de Ligue 1, mène 1-0 face à Sochaux, de 16e de Ligue 2. C'est Arojo qui a ouvert le score de la tête à la 40e minute suite à un festival de l'incontournable Nicolas Pépé dans la surface de réparation face à 3 Sochaliens. L'Ivoirien réussit un centre en retrait de l'extérieur du gauche de toute beauté pour la tête d'Arojo. Ouverture du score logique après une première période dominée par la formation nordiste. L'entraîneur lillois Christophe Galtier l'avait annoncé il y a quelques jours. Il prend ce match de Coupe de France très au sérieux. Il aligne ce soir d'ailleurs à 2-3 joueurs près sa meilleure équipe, Christophe Galtier, pour qui la Coupe de France est sûrement le plus beau trophée. Lui qui l'a déjà remporté en 2007 lorsqu'il était l'adjoint d'Alain Perrin à la tête du FC Sochaux. Justement, on rappelle que 6 clubs de Ligue 1 ont déjà été éliminés en 32e de finale. Les Lillois veulent éviter le piège, ne pas être le 7e club de l'élite à se faire sortir. Pour le moment, ça se passe plutôt bien pour eux. Et sachez que le tirage au sort des 16e de finale a été effectué juste avant la rencontre. Et le vainqueur de ce match affrontera au prochain tour dans 2 semaines 7 clubs de National 2. On rappelle le score, donc 1-0 pour Lille face à Sochaux après 1 heure de jeu.
Merci beaucoup Sébastien Boué en direct du stade Pierre-Bonroy de Lille. Vous évoquiez ce tirage au sort des 16e de finale ce soir. Alors parmi les autres rencontres, je vous signale
signale notamment que le PSG affrontera Grenoble, club de Ligue 2, ou Strasbourg. Monaco jouera contre Metz, Ligue 2. Trois rencontres entre clubs de Ligue 1, Amiens-Lyon, Saint-Étienne-Dijon et Toulouse-Reims. Nancy, Ligue 2, affrontera Guingamp. Et puis Andrézieux-Boutéon, petit club de National 2, mais c'est le tombeur de l'OM. Andrézieux-Boutéon sera opposé au club de Lyon-Duchère de National 1. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, rendez-vous sur europe1.fr. Et puis le coup d'envoi cet après-midi du Rallye Dakar, course qui pour sa 41e édition se déroule entièrement au Pérou cette année avec 70% de sable et de dunes. Et on va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous Elena Morna. Elena, on passe d'un ciel gris et sec à un ciel gris et humide.
C'est ça Isabelle, la pluie arrive en ce moment par la mer du Nord. Elle va rapidement gagner les régions du Sud et de l'Est demain matin avec le retour de l'or blanc. Je veux bien sûr parler de la neige attendue en bonne quantité sur tous les reliefs et même jusqu'à 20 cm sur les Vosges ou le Jura. Après le passage des pluies, retour d'un temps sec et très peu d'éclaircies sur le Nord-Ouest. Éclaircies plus vaillantes quand même sur la Bretagne et les bords de Manche. Le littoral méditerranéen échappera aux pluies mais pas au vent qui soufflera quand même jusqu'à 100 km/h demain après-midi. Plus nuageux sur l'ouest de la Corse. Les températures toujours un peu fraîche pour la saison dans le sud-ouest avec moins 1 degré demain matin à Pau et bien doux au nord avec 9 degrés à Cherbourg. Et puis l'après-midi, on plafonnera à 2 degrés pour Rodez, 4 à Brive-la-Gaillarde et Belfort, 5 à Saint-Étienne, 6 à Cahors et Verdun, 7 à Lyon, à Clermont-Ferrand ou encore à Toulouse, 8 à Lille et Blois, 9 à Rouen, Paris-Bordeaux, 11 à Quimper, Nantes et Hendaye, 12 à Nîmes, 13 à Marseille, 16 à Toulon.
La météo signée Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hambaud de boursier.com qui vient de rentrer dans ce studio juste avant l'invité éco d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir le président du CES de Las Vegas. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h16 sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse tout de suite avec vous Didier Hambaud, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui reste dans le vert après son rebond de la fin de la semaine dernière.
Wall Street qui prolonge son rebond, oui, un rebond assez net hein, vendredi, en espérant de nouvelles avancées sur le dossier du commerce avec la Chine et du nouveau peut-être sur le shutdown aux États-Unis. En tout cas, le Dow Jones prend 0,42%, c'est modeste, mais c'est quand même de la hausse, 23 531 points. Et c'est surtout le Nasdaq, encore une fois, qui se distingue, toujours les valeurs de technologie très, très nerveuses. À la hausse aujourd'hui, donc plus 1,26%, exactement 1,26% à 6823 points. Quelques grandes valeurs de technologie poursuivent leur reprise de vendredi. On a IBM plus 0,7%, Oracle plus 1,6%. À noter Tesla plus 5,5% qui a lancé aujourd'hui la construction de sa méga usine en Chine. $335 pour Tesla. Amazon reprend 3,5%, eBay plus 1,7%. En revanche, Apple est stable à $148. Le pétrole remonte légèrement. On est à $48 le baril. Ça remonte un petit peu et donc ça aide Exxon en hausse de 0,5% à $71,50 et Chevron plus 1,2%. L'euro se reprend aussi, on est au-dessus des 1,14, 1,1475 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, elle, a reperdu un peu de terrain, mais dans le calme.
Oui, pas grand-chose à signaler. Après le rebond, le très net rebond de vendredi, plus 2,7% vendredi, forte hausse avec des prises de bénéfices aujourd'hui, moins 0,38%, pas grand-chose, 4,719 points, toujours à l'écoute donc des négociations commerciales entre Américains et Chinois. Avec la délégation américaine qui se rend cette semaine à Pékin pour tenter de faire avancer le dossier. On en attend plus donc dans les prochaines heures. Quelques grosses valeurs ont reperdu du terrain. Sanofi, moins 2%. Alstom s'est tassé de 1,9% sur des craintes concernant le rapprochement avec la branche transport de Siemens qui pourrait faire tiquer Bruxelles. Puis Airbus redonne 1,8% avec Danone et Pernod Ricard.
Exception du jour, Didier Nicox qui a terminé en nette hausse.
Le laboratoire, oui, qui grimpe de 6,8%. Nicox à 6,80€. Aidé par le feu vert obtenu par son partenaire Bausch et Lomb au Canada pour la commercialisation de leurs médicaments contre le glaucome. Donc Nicox en hausse ce soir, forte hausse de 6,8%. Sur les autres places financières, ça monte à Bruxelles, plus 0,7%. À Madrid, plus 0,4%. À Milan, plus 0,6, mais ça baisse un petit peu à Francfort, moins 0,2%. On rappelle le CAC 40 en baisse de 0,38%, 4719 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hambaud de boursier.com. Et à 22h19 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver votre interview écho tous les soirs avec Emmanuel Dutheil. Emmanuel, vous recevez ce soir le président du CES de Las Vegas.
Ce soir, notre invité Gary Shapiro, c'est le patron du CES. Le CES, c'est le plus gros salon d'électronique au monde. Ça se passe chaque année à Las Vegas et on va le vivre en direct toute cette semaine sur Europe 1. Déjà, soyez au rendez-vous la nuit prochaine, c'est-à-dire la nuit de mardi à mercredi, nuit spéciale de 1h à 5h du matin avec François Geffrier et Grégoire Martinez aux commandes d'une spéciale qui va vous faire découvrir tout ce salon. Et nous, chaque soir à 22h20, on va aller aussi dans les coulisses comme ça de ce salon. Et on débute dès ce soir avec peut-être le meilleur invité pour commencer, puisqu'il s'agit de Gary Shapiro. Gary Shapiro, merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Vous êtes le patron de ce Consumer Electronic Show. Alors, ça débute aujourd'hui. Vous avez déjà une première idée des tendances de cette année ?
Alors, le CES 2019 se résume en quelques catégories. L'incroyable technologique et l'intelligence artificielle, évidemment. Nous n'avons pas juste un espace dédié à cela. La majorité des entreprises ont maintenant des produits qui l'utilisent. La 5G est aussi vraiment lancée ici. Les principaux opérateurs, les entreprises qui font le réseau, les puces, ils sont tous là. Et on estime déjà ce que pourrait être l'impact économique de la 5G aux États-Unis. Il y a bien sûr également les enceintes intelligentes. La bataille de l'année dernière entre Google et Amazon, elle continue cette année, mais au lieu de se concentrer sur les enceintes avec des écrans, elle porte maintenant sur l'arrivée de ses assistants dans le plus grand nombre de produits. Les voitures qui se conduisent toutes seules et les villes intelligentes sont aussi très présentes. Beaucoup de constructeurs montrent leurs nouveautés ici. On peut prendre des taxis autonomes à Las Vegas et on voit ce à quoi ressemblera le futur. Et puis la prise en compte de l'environnement est aussi l'une des nouveautés de cette édition. Avec le changement climatique, le retour à une consommation locale, on voit aussi beaucoup d'innovations dans ce domaine.
Alors pourtant, il y a quelques années, le CES était un salon centré sur la télé, l'audio. On ne les voit plus beaucoup aujourd'hui, de ce que m'ont dit Grégoire Martinez et François Geffrier qui sont sur place. Ça fait partie du passé, Gary Shapiro ?
Oh, TVs, non.
Ah, les télévisions, non. La 8K, la ultra haute définition, et la 4K, qui est maintenant l'une des tendances les plus importantes, a été présentée au CES il y a quelques années. Les téléviseurs 8K vont être commercialisés en 2019. C'est un vrai produit qui va bien se vendre. Et dans l'audio, il y en a pour tous les goûts, entre ce que fait Dolby, les différents types d'enceintes. Il y a vraiment des centaines d'entreprises audio qui sont ici au CES.
La technologie est arrivée à un point où elle est déjà très avancée, elle répond à la plupart de nos besoins. Est-ce que on peut encore, comment je pourrais dire, créer un effet waouh ?
Ah oui, bien sûr, c'est encore possible. Il y a les robots, par exemple, qui sont de plus en plus nombreux et qui vont continuer à se développer dans les 20 prochaines années. Rendez-vous compte de ce qu'ils peuvent faire. Combiné à l'intelligence artificielle, peut-être que dans 10 ou 20 ans, ce sera un robot qui va m'interviewer et qui posera les bonnes questions. Il sera même capable de répondre comme un humain. Et puis, il y a aussi des technologies qui doivent encore être inventées, comme celle qui me permettrait de voler dans la pièce, d'aller partout très vite. Et puis, dans le monde de la santé, il y a beaucoup de nouveautés et nous n'en sommes qu'au balbutiement. Il y aura plus de produits dans les 10 prochaines années que depuis 2 siècles. J'en parle beaucoup dans mon dernier livre, Ninja Future, sur toutes les technologies à venir, celles sur lesquelles on ne fait encore que spéculer, mais qui pourraient arriver, comment on doit les voir en tant qu'humain, que citoyen, qu'entreprise, que région ou même que pays. Et puis, il y a une autre question. Comment peut-on prendre ce tournant correctement pour être certain qu'il sera bénéfique à notre société et que ces changements un peu fous qui vont nous permettre de vivre plus longtemps, de rester en bonne santé et connecter à nos proches, d'être plus cultivés, de s'adonner à nos passions, comment tout cela va transformer également nos métiers. Et puis, il y a aussi la question du respect de la vie privée. Les gouvernements doivent fixer des limites, mais ils ne doivent pas restreindre l'innovation. Ils ne doivent pas non plus s'inspirer du modèle chinois où il n'y a pas de vie privée. Alors c'est pour ça que je suis fier que l'on se concentre sur l'intelligence artificielle et que lorsqu'Emmanuel Macron était venu au CES en tant que ministre de l'économie, il a dit qu'il allait faire une politique française de l'intelligence artificielle parce qu'il a visité le CES.
Gary Shapiro, je rappelle que vous êtes le patron de ce CES, vous êtes avec nous en ligne depuis Las Vegas. Les patrons de certaines grandes entreprises américaines de la technologie, notamment Tim Cook, qui est le patron d'Apple, appellent à la création d'une loi similaire au règlement européen sur les données personnelles ici aux États-Unis, donc chez vous. Est-ce que ce serait quelque chose de positif ?
Je pense que c'est important que l'on ait une loi au niveau des États-Unis, mais moi je pense que la loi européenne dont vous parlez, le RGPD, aider, ça ferait de l'innovation. C'est trop large, trop ambigu et il s'y applique à des entreprises non européennes, ce qui a un effet dévastateur sur les petites entreprises. Ce ne sont pas Apple et Google qui sont concernés, ce sont les startups et ça crée une barrière. Je l'ai entendu de la part d'entrepreneurs d'Amérique latine ou d'Afrique. Ils sont très préoccupés par le respect de la vie privée, mais ils doivent pouvoir accéder à Facebook, Google ou Yahoo gratuitement. On leur impose nos règles de confidentialité, alors qu'eux, ils pensent juste à survivre.
Parlons, si vous le voulez bien, un petit peu maintenant des entreprises françaises. En France, on parle beaucoup du CES avec toutes les entreprises qui y viennent. C'est aussi un phénomène que vous observez. Vous êtes là entre tous les Français.
La France a plus d'entreprises dans notre espace dédié aux startups qu'aucun autre pays, à l'exception des États-Unis. Il y a plus de 300 entreprises françaises qui sont dans cet espace et la qualité d'innovation est incroyable en France. C'est génial de voir la culture française qui fonctionne avec les cinq sens. Il y a des entreprises qui s'intéressent au vin, mais il y en a aussi qui n'ont rien à voir avec ça. La France a de bons ingénieurs, de bons innovateurs, entrepreneurs, c'est un mot français. Et c'est super de venir présenter ses produits ici au monde entier. La France est clairement l'un de nos champions de l'innovation quand on classe les pays du monde en fonction de leur ouverture à l'innovation.
Si vous deviez avoir des conseils à donner à un start-upper pour réussir, ce serait quoi ces conseils ?
Le truc pour réussir, comme souvent, c'est d'apprendre. Vous ne créez pas un business plan comme ça en claquant des doigts. Vous venez avec une idée, un prototype et vous écoutez les conseils des grands distributeurs, des investisseurs, des médias que vous rencontrez pendant les 4 jours du salon. Et ces gens-là, ils vous diront ce qui va marcher et comment changer votre produit pour qu'il se vende.
Et enfin, pourquoi avoir installé finalement ce CES à Las Vegas ?
Alors on a choisi Las Vegas parce que c'est la seule ville des États-Unis qui peut accueillir le CES. C'est là qu'il y a le plus de chambres d'hôtel, de restaurants. Il y a 3 des 10 plus grands centres de conférences au monde et celui où nous sommes ce soir en est l'exemple. Mais on a aussi un superbe événement à Paris qu'on espère faire grandir et continuer à le faire vivre comme depuis plusieurs années. Puis on en a également un à Shanghai et à Amsterdam.
Un grand merci à Gary Shapiro. Je rappelle que vous êtes le patron du CES, donc ce compte Consumer Electronic Show, le plus grand salon de l'électronique grand public au monde. Et je vous rappelle, nuit spéciale, la nuit prochaine, nuit de mardi à mercredi sur Europe 1 de 1h à 5h du matin. On sera en direct depuis ce salon avec François Geffrier et Grégoire Martinez. Un grand merci à eux deux qui ont rendu possible cette interview. Très bonne soirée à vous tous. Rendez-vous demain, 22h20.
Et on vous dit à demain. Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Défi à l'Omerta, titre Bernard Stéphan dans le journal La Montagne. Un homme de Dieu devant la justice des hommes et pas n'importe qui. Le cardinal Barbarin n'est pas un lampiste. Lui, primat des Gaules, qui fut un temps papabilé, c'est-à-dire potentiel pape. Il incarne ces prélats qu'on appelait jadis princes de l'Église. Il n'était pas coutume de les convoquer à la barre du tribunal séculier. Tout se réglait dans le silence du confessionnal. Mais le dossier est tel, illustration du mal qui ronge peu ou prou toutes les églises du monde, avec l'indulgence de nombreux évêques que les temps ont changé. Le pape a bousculé la sérénité du temple en dénonçant la culture d'abus de l'Église, pointant les 3 dérives du cléricalisme, les abus sexuels, les abus de pouvoir, les abus de conscience. Le procès Barbarin a été rendu possible grâce en partie à la parole du pape François, mais surtout grâce à l'explosion de la demande de transparence qui interpelle à peu près tous les pouvoirs désormais. On voit mal comment l'Église aurait pu s'y soustraire. Il ne doit plus y avoir de zone de non-droit pour les directeurs de conscience, écrit donc Bernard Stéphan dans La Montagne. Européenne, l'hypothèse royale agite la gauche. C'est le titre du journal L'Opinion. Les élections pourraient voir au moins 6 listes de gauche s'affronter en mai aux européennes. Les partisans d'une candidature de l'ancienne ministre ne désespèrent pas d'aboutir à une unité, mais le temps presse. L'impopularité d'Emmanuel Macron et la radicalisation de Jean-Luc Mélenchon ouvrent jour après jour un espace à l'ancienne ministre de l'écologie, tout en la contraignant à être de plus en plus souple pour réaliser
réaliser ce grand écart entre les communistes et les centristes qu'elle entend rassembler autour des socialistes. C'est ce que nous dit Mathieu Depric, donc dans l'Opinion. Ses soutiens en sont persuadés, le contexte politique prouve que Ségolène Royal est le pivot des forces de gauche. Impôt à la source, une affaire de couple, titre le journal La Croix, qui nous explique que le prélèvement à la source pousse les conjoints à parler argent pour définir leur taux d'impôt respectif. Et puis les Échos s'intéressent quant à eux au nouvel imbroglio autour de la taxe d'habitation. En effet, après avoir annoncé il y a un an la disparition de cette taxe, l'exécutif est en train de revoir la question pour les 20% de ménages les plus aisés. Mais le gouvernement est divisé et la question n'a pas encore été tranchée. Certains pointent que cette décision toucherait les classes moyennes supérieures. Ces dernières, excepté les super riches, sont justement les perdantes fiscales des 10 ans d'après-crise, avec notamment des hausses d'impôts qui ont grevé leurs revenus d'au moins 2,5% entre 2010 et 2016. Et voilà pour ce tour d'horizon rapide des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Ah, on va repartir au foot, bien sûr, que dis-je ? La Coupe de France, on vous retrouve en direct, Sébastien Boué. Vous suivez donc ce 32e de finale entre Lille et Sochaux.
Et pour l'instant, les Lillois tiennent leur qualification. 78 minutes de jeu au stade Pierre-Mauroy et le LOSC, deuxième de Ligue 1, mène toujours 1-0 face à Sochaux, 16e de Ligue 2. But inscrit par Arojo de la tête en première période. C'était à la 40e minute suite à un excellent travail de l'inévitable Nicolas Pépé. Score logique dans un match dominé par la formation nordiste, mais les hommes de Christophe Galtier ne parviennent pas inscrire le deuxième but, à se mettre à l'abri. Ils ont bien failli se faire rejoindre à la 56e minute. Sané avait la balle d'égalisation au bout du pied, mais Mike Maignan, le portier lillois, a sauvé les siens d'une parade impeccable. Les Lillois qui ont le ballon, qui font circuler tranquillement en défense. Les Lillois bien partis donc pour se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort de ces 16e a été d'ailleurs effectué juste avant la rencontre. Et si le score en reste là, si le LOSC se qualifie, il affrontera au prochain tour, dans deux semaines, 7 pensionnaires de National 2. Il reste 11 minutes à jouer dans cette partie. Et Lille mène 1-0 face au FC Sochaux.
Merci beaucoup Sébastien Boué en direct de Lille. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Ravie de vous retrouver.
Moi aussi, bonne année.
Bonne année à vous.
Et on se retrouve à tout à l'heure.
À tout à l'heure.